Pavel Fischer, 46 ans et directeur politique au ministère des Affaires étrangères pendant 8 ans, de 1995 à 2003. Il a travaillé aux côtés de Václav Havel, d'abord comme chargé de communication, puis comme conseiller politique du président, avant d'être nommé ambassadeur tchèque en France, fonction qu'il a exercée jusqu'en 2010. Dans la première partie de l'entretien qu'il a accordé à Magda Hrozinkova, Pavel Fischer se souvient des débuts de sa carrière, ainsi que de l'ambiance qui régnait alors au château de Prague autour de l'ancien président.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Pavel Fischer, bonjour. Vous êtes né à Prague en 1965. Est-ce que votre famille a été proche de la France, attachée à la France?
Pour ce qui est notre famille et sa francophonie, il y avait des éléments. À la maison, on parlait tchèque, mais lors des déjeuners de dimanche, avec mes grands-parents, on parlait le latin, on disait des blagues en allemand, et ma grand-mère, qui était très francophile, aimait beaucoup de dire quelques mots en français. Donc, il y avait le français présent. Et lorsque j'étais comme enfant avec mon père, qui travaillait dans la physique nucléaire à CERN, ce centre de recherche à la frontière suisse et française, j'étais là comme élève et j'ai pu être scolarisé dans une école de campagne en France. Et donc, ce souvenir gravé dans la mémoire d'un petit écolier qui essayait d'attraper ses pères français, ce souvenir est resté gravé très fort quelque part dans mes souvenirs, et donc ça a toujours facilité cette ouverture vers la France et vers tout ce qui est français.
En 1990, vous avez terminé vos études à la faculté des lettres de l'Université Charles à Prague, des études consacrées, si je ne me trompe pas, aux langues romanes. Mais avant d'entrer à l'université, vous avez travaillé pendant un an comme ouvrier dans la recherche géophysique. Pour quelles raisons? C'était donc lié au métier de votre père?
C'était l'époque où être admis à l'école secondaire nécessitait être de bonne famille ou bien de bonne, de bonne origine. Et je parle plutôt des origines en termes idéologiques ou partisans ou politiques proprement dit. Et lorsque je terminais mes études au lycée, je n'étais pas admis à l'université aux sciences naturelles. J'ai souhaité faire la géologie ou hydrologie en particulier. Et ce résultat, je n'ai jamais élucidé pourquoi, mais une partie, je crois, était non seulement mon ignorance ou mes faibles connaissances en maths ou en physique, mais aussi le peu de points que j'avais sur le score, je dirais, d'engagement politique proprement dit. Et je me suis décidé d'aller travailler dans le métier que je souhaitais étudier, dans une position d'ouvrier, donc de quelqu'un qui aide les chercheurs à réaliser leur travail. J'ai pu toucher vraiment au métier de géologie ou de géophysique proprement dit. Et c'était aussi le moment où j'ai décidé de ne plus continuer cette ambition en sciences naturelles et de bifurquer vers les études de français, de langue et de civilisation française. Et finalement, j'ai réussi à la fac lors des admissions une année plus tard. Ce qui peut-être a été aussi facilité par le fait que je me présentais comme ouvrier, et comme vous savez bien, les ouvriers avaient voie plus facile aux études que des enfants des familles dites d'intelligentsia.
Après la révolution de velours, avant de travailler pendant 8 ans aux côtés de Václav Havel dans l'office du président de la République, vous avez entre autres enseigné le français au lycée franco-tchèque en Neruda à Prague. Vous avez été aussi secrétaire personnel de l'évêque František Lobkowicz ou directeur adjoint à l'Institut de communication. À cette époque-là, vous avez déjà souhaité vous engager dans le monde de la politique et de la diplomatie.
Vous avez oublié de mentionner une année qui a été pour moi très importante. Après la chute du mur de Berlin, j'étais invité dans une petite structure en Suisse qui était focalisée sur les études de l'enseignement social de l'Église. Et cette année d'études et d'approfondissement des sujets de société, de politique, d'économie, m'a beaucoup, d'histoire, de civilisation chrétienne, m'a beaucoup ouvert des yeux. Je me suis rendu compte que le monde les soucis du monde ne s'épuisaient pas par le simple combat contre les communistes, excusez-moi de l'expression, mais c'était comme ça comme nous vivions sous la chape de plomb idéologique qui nous a été imposée sous le régime totalitaire, mais que le monde était beaucoup plus complexe, que les questions de pauvreté accompagnaient l'humanité depuis des lustres, que des questions de justice sociale, d'attention aux autres, de richesse et de partage étaient des questions peut-être qui échappaient au discours parlementaire, mais qui n'échappaient pas à la réflexion sur la place des hommes et d'une société créée, existante dans un pays concret. Et c'est là où j'ai vu que être utile, être sensible à ces interrogations-là devenait quelque chose de très important pour une société, et je souhaitais rester engagé et à l'écoute de cette approche-là. Et la suite, vous l'aviez mentionné, j'ai travaillé dans l'Église, mais aussi j'étais toujours attiré par les questions publiques, et donc l'invitation de venir travailler dans l'équipe de Václav Havel en 95 a été quelque chose de naturel dans cette perspective-là.
Vous avez travaillé à ses côtés pendant 8 ans, à partir de 1995 jusqu'à la fin de sa présidence en 2003, d'abord comme chargé de communication, ensuite comme porte-parole adjoint et enfin comme responsable du département politique. Et les gens ont peut-être encore cette vision un peu idéaliste de l'ambiance qui régnait au château de Prague. La gymnaste et ancienne collaboratrice de Václav Havel, Věra Čáslavská, récemment évoquait à la télévision que cette image de Václav Havel qui se promène en trottinette dans les couloirs du château est un peu fausse, parce que le travail était très dur après la révolution, dans les premières années post-révolutionnaires. Vous êtes arrivé au château 5 ans plus tard. Quelle était alors l'ambiance à cette époque-là au château de Prague?
Le château était toujours un centre de pouvoir important, sur le plan spirituel, comme aimait le rappeler Václav Havel lui-même, c'est-à-dire cette présence du site des rois des pays de Bohême, mais aussi cette présence de la cathédrale, site donc du pouvoir spirituel, c'était quelque chose qui apportait au château lui-même une certaine autorité. Donc c'est le site lui-même. Václav Havel, homme affable, homme plutôt discret, timide, mais dès que la question méritait l'attention, dès que il fallait s'engager et dire un mot qui tranche, dès qu'il y avait un sujet qui dépassait l'ordinaire, là, il devenait intransigeant. Et c'était quelque chose de très remarquable, de voir un homme qui préférait souvent écouter que de parler, qui préférait plutôt de lire et d'écrire que de se produire sur la scène comme un acteur. Dès qu'il y avait un sujet d'importance, là, il devenait vraiment autorité certaine. Et c'était quelque chose de formidable de vivre de près. Deuxième aspect que j'ai remarqué très tôt, c'est que cette ambiance autour de lui a été une ambiance très ouverte, un débat dans lequel il y avait relativement peu de tabous. Donc, intellectuellement parlant, c'était un défi que de réussir à faire valoir des points qu'on voyait importants. Et troisième point, Václav Havel lui-même ne stressait pas ses subordonnés. Ses collaborateurs, il nous disait souvent « mes collaborateurs », étaient souvent invités peu avant une conférence, un événement, une visite ou quoi que ce soit. Et les gens qui préparaient les dossiers étaient invités à lui expliquer le sujet en 3 minutes. Et il ne stressait pas les gens. Les gens étaient peut-être intimidés, mais il aimait bien de rencontrer la personne qui est derrière ces papiers-là. Et c'était pour moi très intéressant de voir comment il valorisait les gens et comment il valorisait leur savoir-faire. C'était une très belle leçon comment, même si on est très important, même si on a beaucoup d'occupations, même si on a très peu de temps, on peut finalement manifester à l'égard des gens autour de lui, de soi-même, une certaine disponibilité de l'esprit et de la pensée. Et là, Václav Havel est un vrai champion.